Et vous écoutez France Culture. Ce n'était pas un androïde, ce n'était pas un automate, c'était un être plein et entier, c'était lui, personne d'autre que lui, c'était Francis Ricin, Martin Mongin. Mais pas d'erreur, c'est mauvais genre. Campagne sauvage et magique d'affichage, enquête et filature, hagiographie, sosie et meeting monstre. Mais qui est donc l'étrange Francis Ricin qui marche à la conquête du pouvoir, captive et fascine en 11 chapitres d'un premier roman plus qu'étonnant. Le romancier Martin Mongin tisse le piège et lance des pistes. Il est ce soir l'invité de Mauvais Genre, chronique en second temps d'émission de récente publication, signée Tanizaki, Jérôme Leroy et Mathilde Brunet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre polar ce soir, mais est-ce vraiment du polar? Qu'est-ce d'ailleurs? Puisque notre invité de ce soir, Martin Mongin, que je salue, bonsoir.
Bonsoir.
Invente peut-être un nouveau genre littéraire, une nouvelle forme de thriller politique. Est-ce que c'est dans vos ambitions, c'est Martin Mongin, avec Francis Ricin, d'inventer un nouveau genre littéraire?
Non, pas inventer un nouveau genre, non, plutôt m'amuser avec les genres littéraires qui existent déjà, et c'est déjà du travail.
Voilà, donc plutôt profiter de ce qui a été inventé pour le perturber, faire des disruptions, comme on dit,
manipulations. Si je m'approprie à ce mot-là, mais...
Très bien, ben soyez le bienvenu à Mauvais Genre, donc vous Merci. Êtes là... À l'occasion donc de cette parution aux éditions Tusitala de ce premier roman, là aussi c'est important, Francis Ricin, roman édité par Michael Demetz. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors là aussi, roman reçu par La Poste, est-ce que la légende continue de vivre du grand roman arrivé tout simplement par le courrier de 11h, Michael Demetz?
C'est ça, il est arrivé à mon associé Carmela qui est à Bruxelles en Belgique. Puisque Martin a pensé bon de contourner les publications françaises et d'essayer les pays limitrophes. Mmh. Et malheureusement pour lui, il est tombé sur des Français quand même. Et voilà, et en effet, on a reçu ça par la poste début décembre.
Très bien, c'est toujours intéressant d'avoir pour un premier roman l'éditeur, c'était déjà le cas à Mauvais Genre avec Les Forges de Vulcain et Souviens-toi des monstres de Jean-Luc André d'Asciano. C'était au mois de juin. Pour mener cette émission, je serai avec Élise Lépine.
Bonsoir.
Élise Lépine, spécialiste de polar, journaliste, mais également éditrice à l'enseigne de
Playlist Society.
Voilà. Sont les titres
et
du
on
moment
a deux actualités. Lily et Lana Wachowski d'Erwan Desbois. Lily et Lana Wachowski, La Grande Émancipation, qui fait une chronique de l'œuvre et de la vie aussi des réalisatrices de Matrix. Et c'est aussi un peu dans l'actu puisque Matrix 4 est annoncé. Mmh. Et puis, donc ça s'est sorti le 24 septembre et le 14 octobre, on a l'arrivée de The Leftovers, le troisième côté du miroir. Et là, c'est Pacôme Thielmont et Sarah Atuel qui se sont penchés sur bien la série, la grande série mythique qu'on adore et puis qui vont parler de Lost, qui vont parler d'Apocalypse, qui vont parler de la gnose. Donc on va retrouver
ça.
C'est
étonnant quand il y a Pacôme Thielmont.
La part de Pacôme Thielmont. Et ce sera donc dans quelques jours, hein, le 14 septembre, le 14 octobre.
Qui continue son exégèse des séries télévisées à la lumière des grandes traditions spirituelles et mystiques. On sera attentif, évidemment, à cette dernière publication.
J'ai édité ça avec Benjamin Fogel, hein, toujours.
Bien sûr. Hubert Prolongeau.
Bonjour.
D'où revient-il?
Il revient du Pakistan où il est monté à 5700 mètres sur le col du Gondogoro avec des difficultés qu'il a surmontées mais qui furent réelles.
Et de cette ascension sortira bien sûr un livre triomphal.
Je ne crois pas, non.
Non, juste
j'accable ma famille depuis de cette épopée, mais ça ne devrait pas dépasser ce cénacle assez restreint.
Voilà, donc on est heureux que vous soyez descendu du Gondogoro pour arriver dans le studio de Radio France, une parution récente.
Oui, on a avec donc mon vieux complice maintenant, Arnaud Delalande, on a écrit pour une nouvelle collection chez Robinson, qui est une filiale d'Hachette, qui s'appelle Face à Face et qui met en scène des conflits historiques célèbres. On a écrit un Hitler-Staline qui raconte l'opération Barbarossa, Stalingrad, la fin de la guerre, et qui donc inaugure cette série dont le prochain à venir en janvier sera consacré à Jésus et Pilate. Et si les lecteurs se ruent férocement sur ces deux opuscules, il y en aura d'autres.
Francis Rissin, par exemple.
Par exemple, voilà. On compte beaucoup sur son soutien. Il paraît qu'une campagne d'affichage sauvage et massive est en cours.
A été lancée. On parlait des Leftovers, Martin Mongin. Vous êtes un amateur de séries. Est-ce que, dans l'élaboration de Francis Rissin, certaines séries ont joué leur rôle?
Je suis un petit amateur de séries. Non, je pense pas que ce soit les séries vraiment qui aient joué leur rôle. Je suis plutôt un lecteur de romans, quand même.
Voilà, donc c'est plutôt les grands ingénieurs du récit et les grands magiciens, les Kafka qui vous ont influencé. Bien, on va voir tout cela ce soir avec vous. Mais en attendant, nous allons vivre une drôle d'histoire grâce à Céline Duchesnay en ouvrant l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Mais quelle histoire, ma chère Céline?
Mon cher François, c'est une histoire que je vais vous raconter ce soir, l'histoire d'une passion obsessionnelle incarnée par un livre édité en un seul et unique exemplaire par le docteur Lucien Gros. Alors Lucien Gros était médecin, grand collectionneur, mais aussi spirite. Et son obsession, cette première moitié du XXe siècle, c'est de retrouver la trace de Marie Duplessis, célèbre courtisane du XIXe siècle, et de lui composer un livre hommage aussi luxueux que hors du commun. Bernard Le Borgne, libraire.
Marie Duplessis, c'est pour Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias, et pour Verdi, La Traviata. C'est une jeune femme qui meurt à 23 ans en 1847, d'excès en tout genre, et qui est un météore, qui traverse la société parisienne, éblouissant par sa beauté et son esprit fantasque, tous ses contemporains, de Franz Liszt à Chopin, en passant par Alexandre Dumas, fils, qui va en faire l'héroïne que l'on sait. Marie Duplessis n'a rien laissé derrière elle, ni lettres, ni autobiographie, simplement le souvenir justement de cette vie hors norme. Donc le docteur Lucien Gros a eu l'idée baroque de rechercher les factures qu'elle avait laissées en grand nombre derrière elle à sa mort, et par le truchement de ces factures, de retrouver la trace de la Dame de Camélia dans ce Paris des années 1840. 400 factures qui couvrent à peu près tous les secteurs d'activité de l'époque. Alors bien sûr, pour la Dame aux Camélias, les fleurs, mais aussi les parfums, les diamants, les chevaux, les robes, les frais de pharmacie, d'opium, de champagne et de gants. Elle achète plus de 400 paires de gants. Elle fait une fixation sur cette frivolité. Et en même temps, cette fuite en avant qui se profile au fil des pages de façon tout à fait vertigineuse.
Il faut imaginer Lucien Gros sillonnant la capitale, pénétrant dans chacune des boutiques où Marie Duplessis était passée, reconstituant au fil des factures qu'il trouvait les 5 années de vie flamboyante de la courtisane qui pourtant mourut criblée de dettes. Ces factures sont devenues pour lui une manière d'approcher au plus près l'objet de sa passion, des reliques qu'il a élégamment et artistiquement réunies et classées dans ce livre unique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque l'on est spirite, on fait tout pour entrer en communication avec les morts. Lucien Gros raconte ainsi, dans un petit fascicule qui accompagne l'ouvrage, comment un jour, le fantôme de la Dame aux Camélias lui est apparu.
Le docteur est dans son bureau et il sent une présence. Je me tins immobile un instant, puis posai la plume sur l'écritoire et d'une voix que je faisais, ma foi, quelque peu calme, je lui dis « C'est bien vous, Marie ?» La Dame aux Camélias, car c'était elle, se montra sensible à ce procédé, où elle reconnaissait qu'il n'entrait aucun effroi. Elle-même, aussitôt familière, posa sur mon épaule une main légère qui s'en détacha presque dans le même moment pour frôler mon oreille et la dépasser. La Dame aux Camélias se déplace autour du docteur Lucien Gros, médusé comme on peut l'imaginer, et puis rapidement son charme opère, un dialogue s'instaure, le docteur Lucien Gros lui montre ses factures, elle les reconnaît, mais reconnaît aussi une certaine lassitude, par rapport à ces instruments de torture qu'ont été ces factures pour elle, et demande au docteur Lucien Gros de lui montrer quelque chose de plus gai. Le docteur lui tend alors un feuillet de papier bleu, et Marie le reconnaît immédiatement. Une lettre de moi pour avoir une loge. J'en demandais, vous savez, ce n'était pas toujours pour moi, et puis j'aimais le théâtre, et le mouvement, et la vie. Le docteur Lucien Gros, manifestement, est arrivé à son but. Il nous fait partager d'ailleurs cette émotion tout à fait particulière de cet amour impossible, de cette proximité qu'il réussit à faire renaître par le truchement de ses factures. Et puis le livre s'achève sur ce constat de cette disparition qui, pour lui, à la fin de ce livre, a comblé ce manque qui était le manque de cet amour et de cette rencontre impossible.
Le petit feuillet bleu qui fit si plaisir au fantôme de Marie Duplessis est à découvrir en première page de l'ouvrage de Lucien Gros, un livre conservé par un autre amoureux de la Dame aux Camélias, Bernard Le Borgne, expert en livres anciens et libraire, à l'œil de Mercure, incroyable librairie parisienne dédiée aux manuscrits et livres rares. Quant à Lucien Gros, après avoir fini ce livre, il continuera ses expériences spirites et sensibles, mais il sera rattrapé par l'histoire, puisqu'il sera arrêté comme résistant, puis déporté. Il mourra à Dachau en 1944.
Merci Céline pour cette triple entrée. Bernard Le Borgne, Lucien Gros et Marie Duplessis. Martin Mongin, vous êtes un amateur de spiritisme. Il n'y a pas d'évocation spirit de Francis Risin dans le volume pour elle?
Non, mais c'est parce que Francis Risin lui-même peut-être est un esprit.
Ben justement, peut-être essayer de le capter. Vous-même, vous intéressez à tout ce qui est spiritisme, ectoplasme, paranormal?
J'ai découvert récemment là le livre des tables de Victor Hugo et qui m'a vraiment passionné et ouais.
Le style, effectivement, d'invocation aux grandes figures du passé.
Oui, où il arrive à invoquer Shakespeare et à lui demander de compléter ses textes inachevés. Et Shakespeare, voilà, en faisant trembler la table, il leur fait écrire comme ça quelques vers, beaucoup de vers. D'ailleurs, c'est assez long. Mmh. C'est assez amusant, qu'ils aient pu avoir cette idée-là et que...
Oh bah c'était peut-être dû à l'état d'esprit d'Hugo et puis au climat qui régnait, Hubert Prolongeau, à Haute-Villehouse.
On peut signaler d'ailleurs un roman qui s'appelle La télégraphiste de Chopin, d'Éric Faye, qui est sorti à la rentrée au Seuil et qui tourne autour du personnage transposé d'Elisabeth Braun, qui elle se faisait dicter des compositions musicales par des musiciens morts et sur laquelle certains experts sont dubitatifs. Certains dénoncent une imposture totale, mais d'autres trouvent que la ressemblance entre ce qu'ont écrit les compositeurs en question et ce qu'a retranscrit Elisabeth Braun est troublante.
Vous êtes le diable, Hubert, puisque nous parlerons de ce roman à la toute fin du mois d'octobre dans une émission entièrement consacrée au spiritisme et au paranormal, rien de plus normal. Ah, mauvais genre, en attendant, quelqu'un qui fait non seulement trembler les tables, mais trembler la France, c'est Francis Risin, l'invention de Martin Mongin, notre invité de ce soir dans Mauvais genre sur France Culture en route. Senti beau comme un générique de série, une trouvaille de Laurent Polleret pour notre playlist ricinienne ou riciniste, je ne sais pas, ce soir dans Mauvais genre. J'aime tourner d'abord non pas vers l'auteur mais vers l'éditeur, Michael Demetz, donc qui est en charge, fondateur, animateur des éditions Tusitala, pour qu'il nous raconte un peu sa découverte de Francis Risin. Un jour le facteur, trois petits points, et quelle a été votre première réaction face à ce livre dont on peut déjà pointer l'extrême singularité? 11 chapitres, confiés chacun à une voix différente, un vrai faux texte d'une catégorie bien particulière et une structure très spéciale. Michael Demetz.
Oui, c'est quelque chose qu'on s'attend pas à recevoir par la poste, en fait, tout simplement. Et au point qu'avec mon associé Carmela, on a d'abord eu un doute d'un piège d'un auteur connu qui nous envoyait quelque chose pour nous tester. Et on a eu cette pointe-là tellement... En effet, on n'a pas retravaillé ce texte. On a coupé un peu ce texte, on a corrigé des choses, pointé des petites anomalies, mais techniquement, ce qu'on a reçu était publiable. Et le style et la maîtrise, à la fois dans la construction que vous évoquiez, mais aussi, on en parlera peut-être plus tard, du fond et de la manière dont l'auteur avait su digérer toute une pensée politique et philosophique pour en faire une œuvre littéraire, dénotait quand même quelqu'un qui avait une très grande maîtrise et n'avait rien des tâtonnements ou des approximations qu'on peut parfois attendre d'un premier roman. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, dès la première lecture, nous a emporté. Et, mon associé Carmela l'a reçu à Bruxelles, l'a lu d'abord et m'a dit « faut absolument que tu lises un truc. »
Il y a là quelque chose.
Voilà, et qu'elle me l'a envoyé par la poste. Et en effet, au point qu'on oubliait qu'on le lisait en tant qu'éditeur. On l'a lu vraiment en étant lecteur. Avec cette inquiétude de, moi je me rappelle en lisant, de, il faut que la fin tienne. Je me disais comment finir ce truc, comment est-ce qu'il va finir, et est-ce qu'il va tout refermer et ça va me décevoir, est-ce qu'il va rien refermer et ça va me frustrer. Et il a trouvé une troisième
ni
voie.
Ni déception ni frustration. Voilà. Hubert Prolongeau, est-ce que c'est un roman d'ailleurs?
On peut se le demander. Est-ce que c'est, ou alors comme le manuscrit à Saragosse, ou une espèce de rajout de nouvelles liées par un thème commun. Je sais pas. Vous aviez envie en écrivant. Vous avez dit je vais faire un roman. Est-ce que vous avez conçu d'emblée les 11 chapitres? Est-ce que vous en avez écrit un d'abord et puis après vous avez dit il y a quelque chose, faudrait tourner autour. Il y a eu un thème au départ. Il y a eu un personnage. Qu'est-ce qui a été au début?
En tout cas, moi je me suis pas dit je vais faire un roman. Enfin, moi, j'ai l'impression, au contraire, dans mon travail d'écriture, de toujours m'amuser à brouiller les frontières entre les genres. Et si le genre roman existe, dont on pourrait d'ailleurs discuter, et ben oui, moi, ce qui m'amuse, c'est de le perturber, de brouiller un peu, de brouiller cette catégorie-là, quoi. Ce que peut-être, ou sans doute, le livre arrive à faire. Donc, on pourrait dire, c'est un roman sans être un roman, je sais pas. Bon,
On va en savoir un peu plus. Élise Lépine, votre réaction primo réaction face à ce primo roman d'un primo romancier.
Le côté patchwork, si je puis dire, justement sur les genres, avec cette façon de prendre des choses qui existent déjà, comme vous le disiez en présentation, c'est-à-dire, oui, non, mais j'ai rien inventé, et en même temps de faire quelque chose de complètement novateur dans la littérature française, finalement, c'est l'impression qu'on a. C'est-à-dire, ok, tout existe, mais enfin, le fait de prendre les choses comme ça et de s'y approprier de cette façon, c'est jamais vu.
Nous, c'est un truc qui nous avait frappé, c'est que ça fait penser à plein de choses, ça rappelle plein de choses. On pense à Bolaño, à Lovecraft, à du polar, à plein de choses, mais en fait, ça ne ressemble à rien au final. L'objet fini, c'est quelque chose qui nous avait impressionné. Ouais.
Alors, avant de s'aventurer dans les 11 chapitres de Francis Riston, Martin Monger, on va en savoir un peu plus sur vous, puisque premier romancier, on ignore un peu tout de vous, à la différence des vieux briscards de la littérature et de l'édition, dont on sait déjà tout ce qu'ils ont pu faire commettre par le passé. Vous-même, vous êtes professeur de philosophie, vous vivez en Bretagne, ça s'arrête là, l'enquête des renseignements généraux.
Oui, voilà, peut-être c'est pas mal. Ça donne déjà une petite idée.
Départ. Et quel était un peu votre parcours, à la fois, je sais pas, littéraire, politique, je ne sais rien, religieux, puisque tout cela est dans Francis Riston. Ouais. Quelles ont été vos expériences marquantes, existentielles, et puis sur les lectures, les films?
Oh, c'est beaucoup de choses.
Voilà.
Mais oui, j'ai grandi en Bretagne, dans le centre-Bretagne, dans un petit village du centre-Bretagne. Une éducation religieuse quand même. Donc moi, j'ai des choses à régler aussi avec la religion, sans doute. Et puis la découverte de la lecture quand même assez jeune. Et moi, la découverte de la lecture, ça a été... les deux noms un peu qui restent, hein, c'est Tolkien et Stephen King, quoi. Voilà, hein, donc la littérature de genre, en fait... Mais moi, c'est ça qui m'a accroché gamin, on va dire. Et j'ai découvert les classiques seulement plus tard, en fait. Et peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que moi, les classiques, je les ai toujours lus avec ce prisme dit de genre, quoi. Mais moi, j'ai toujours aimé ce qu'il y avait de fantastique, ou ce qu'il y avait de policier, ou ce qu'il y avait chez Flaubert, chez Zola, mais qui font aussi... qui font aussi de la littérature de genre à leur manière, mais...
Donc, ce qui vous intéresse, c'est moins la littérature labellisée que d'avoir un angle d'attaque, un angle de vue un peu bizarre, singulier, fantastique sur les grands classiques, c'est-à-dire...
Moi, j'ai l'impression que j'écris aussi avec ce dont je me suis nourri, ce que j'ai reçu, et moi, ce que j'ai reçu, ça vient de plein d'endroits différents. C'est la littérature, la littérature fantastique, les classiques, mais c'est aussi les essais, c'est aussi les ouvrages d'histoire, je sais pas. Quand j'écris, j'ai pas forcément envie de me dire cette fois-ci ça va être un roman fantastique ou cette fois-ci ça va être un roman politique. Moi, voilà, il y a mon inconscient qui travaille, il y a il y a mes angoisses, je sais pas. Enfin, moi, l'écriture, elle est faite de tout ça, et donc c'est multiple, quoi. Voilà.
Mmh. Alors, Hubert.
Oui, vous nous dites pas tout, parce qu'il y a aussi un rapport au monde, quand même, assez net dans Francis Risselin, qui est pas un livre désincarné, qui est pas un livre de fantasy, qui se situe entre la planète Tatooine et je ne sais où. Et vous avez aussi écrit sous un autre nom des essais, et vous avez travaillé pour de manière occasionnelle, mais pour le monde diplomatique. Donc, sur quel type de sujet et quel est-ce que ça crée aussi pour Francis Risselin un rapport au monde plus journalistique et plus à analyser l'époque?
Oui, sans doute. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est un truc qui m'intéresse, c'est par la voie de l'écriture et même par la voie de la fiction d'être capable de saisir une sorte de présent ou d'époque, et voilà, qui est le moment où moi. Voilà, mon présent à moi aussi, quoi. Et moi, j'ai l'impression de d'accumuler beaucoup de choses de ce que je reçois autour de moi, de d'angoisse, de questions, tout ça. Et à un moment donné, ben, il faut que ça, que ça ressorte.
Et vos essais, vos articles, ils étaient sur quoi?
Au monde diplomatique, il y a eu un article, c'était sur les vigiles. Voilà. Moi, j'avais appelé ça Vigile, la milice invisible. Et puis, peut-être ça leur avait pas plu, ils avaient rebaptisé ça. Alarmante banalisation des vigiles, voilà. Mais je m'étais pas trop reconnu dans le titre.
Une enquête sur le.
Ouais, mais c'était même moi, je m'appuyais beaucoup sur Michel Foucault, sur le voilà. Qu'est-ce que ça induit, la présence de ces agents de sécurité qui sont ni vraiment des policiers, ni voilà, qui ont un statut un peu flou comme ça, et dont la simple présence a des effets très très forts.
Anxiogènes.
Oui, mais même sur de normalisation, sur nos comportements, et voilà, bah, en présence d'un vigile, y a des choses qui sont pas forcément interdites par la loi et que pourtant on va s'interdire de faire, quoi. Voilà. Bon, ça a tourné autour de ça.
Alors, les vigiles, il y en a quelques-uns dans Francis Risselin. Hubert Prolongeau, on allèche là l'auditeur depuis un quart d'heure avec ce roman. On va maintenant dire de quoi il s'agit.
Et merci.
11 chapitres.
Voilà, c'est difficile parce qu'il faudrait 11 ouvertures. Parce que je ne sais pas, je l'ai lu une fois et dans l'ordre que vous avez choisi. Mais est-ce qu'on pourrait l'aborder dans un autre ordre? Donc au départ, ça commence avec une campagne d'affichage qui annonce un homme dont personne n'a jamais entendu parler, Francis Risselin. Et Francis Risselin s'impose de plus en plus. Le premier chapitre, si mes souvenirs sont bons, c'est un extrait de thèse ou d'un écrit universitaire autour de Risselin. Puis il y a cette campagne d'affichage, puis il y a des gens qui y ont participé, puis il y a Francis Risselin, président de la République et président plus que musclé. Et puis on revient après aux interrogations sur l'origine du phénomène. Et on aboutit, je ne sais pas si vous voudrez le dire ou non, mais un mystère qui n'est finalement pas résolu et qui reste réel. Donc on tourne autour de quelque chose sans justement le clore, mais sans non plus, comme la fin de Lost, puisqu'on parlait de série par exemple, soit décevant. Donc vous laissez ouvert beaucoup de choses. Alors, et vous nous avez mené de chapitre en chapitre de manière très habile à tourner autour d'un personnage qui reste mystérieux.
Alors Martin Mongin, d'abord, quel a été le point de départ, je dirais, la mise à feu de ce livre? Qu'est-ce qui vous a fait partir? Est-ce que c'est par exemple John Hammond, l'homme dont le visage mystérieux s'est mis à se répandre dans Paris sans qu'on sache ni pourquoi, ni comment, ni à quoi servaient ses affiches? Est-ce que c'est au contraire la médiatisation, l'ultra-médiatisation du pouvoir dans certains cas, que ce soit en Amérique du Nord ou en Corée du même Nord? Quel est le point de départ de Francis Risselin?
Mais il y a sûrement des points de départ. Il y en a sûrement pas qu'un seul. Et c'est bon, je sais pas, hein, pour essayer d'en isoler quelques-uns. Sans doute, il y a quand même, une envie de faire ressortir un certain nombre d'angoisses liées quand même à une situation politique,
qui est celle de la France d'aujourd'hui.
Qui est celle de la France d'aujourd'hui, voilà. Alors, certains diront ça fait longtemps que ça dure, ils auront raison, mais voilà, moi, dans vu mon âge, vu mon parcours, tout ça, si on veut être plus précis, c'est un livre que j'ai écrit, on va dire après la présidence de Nicolas Sarkozy, pendant celle de François Hollande et donc avant celle de Emmanuel Macron. Et voilà, moi j'ai l'impression que c'est une période de droitisation très forte quand même de la politique en France. Avec toutes les, les inquiétudes, les angoisses, les questions que ça pose. Il y a eu toute une espèce de truc inconscient qui a dû se passer. Pas que inconscient évidemment. Et donc, peut-être ça a été un des déclencheurs, quoi. Ce truc d'avoir envie de faire quelque chose de ce que j'avais en moi.
Vos réactions face à la politique française. Mais alors, dans ces cas-là, on peut tout simplement, entre guillemets, faire un polar, comme on en a fait beaucoup, on en fait encore aujourd'hui beaucoup en France. On peut faire un polar qui met en scène, effectivement, le personnel politique. On fait ça depuis 40 ans dans ce pays. Mais là, vous n'avez pas fait n'importe quoi. Vous avez fait Francis Ricin, c'est-à-dire un ouvrage dont les 11 chapitres sont une architecture extrêmement complexe qui sollicite vraiment des stratégies d'écriture très particulières, puisque à chaque fois on change de personnage, on change de nature, ce sont des vrais faux documents. Alors ça peut être aussi bien des chapitres de mémoire apocryphes, ça peut être des conférences, ça peut être des entretiens, enfin je veux dire des documents des archives policières. Comment vous en êtes venu à générer cette structure particulière du livre?
Ben en tout cas l'idée de départ, alors je sais pas si c'est en dévoiler trop sur le livre, mais donc ces 11 chapitres, ils sont construits un peu en forme de pyramide. Donc du premier chapitre au cinquième chapitre, il y a vraiment ce mouvement où on s'approche en fait progressivement de ce personnage qui au départ n'est qu'un simple nom. Un simple nom qui apparaît sur des affiches ou sur des tracts. Et plus on avance dans le roman, plus on a l'impression que, en fait, cet être, il a une réalité tangible, il prend une certaine forme de consistance. Ah oui, finalement, il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui s'en sont approchés, puis finalement, c'est lui qui nous parle. Et puis, il y a ce chapitre 6, c'est le chapitre un peu pivot où c'est Francis Ricin lui-même dont on aurait les mémoires ou le journal intime entre les mains. Bon, et puis, sans être vraiment sûr d'ailleurs que c'est bien de sa plume à lui, on sait pas, bon, voilà, mais c'est présenté comme ça. Et puis, ensuite, ça redescend et entre le chapitre 7 et le chapitre 11, et ben ce qu'on avait eu l'impression de croire pouvoir saisir comme ça, et ben ça se délite progressivement, et puis ce qu'on avait cru cerner, et ben on le perd, s'évanouit pour finir. Il y a un peu ce double mouvement là, quoi, d'incarnation et puis de d'évanouissement. Voilà.
Michael de Matsoir, c'est ce qui est marquant dans cette stratégie, parce que là véritablement on a affaire de la sorcellerie avec Martin Mongin, c'est-à-dire que au départ les choses sont extrêmement visibles, prégnantes, patentes, elles sont là. Il y a des affiches qui submergent les murs, qui vont même plus que les murs, qui submergent le paysage, qui sont collées. Enfin, c'est des vraies affiches. Donc il y a quelque chose de tangible et puis on s'approche de tout cela, on croit qu'on va saisir quelque chose, et puis rapidement ça se délite au dernier moment, c'est-à-dire que on reste avec des preuves et on n'a plus rien. À la limite, on a des preuves et pas le crime, ou on a un crime et sans preuve. Enfin, on est véritablement à la fin de chaque chapitre, alors qu'on était persuadé d'être enfin confronté au personnage, eh bien on se retrouve seul, sans rien en main.
C'est en ça que le livre est aussi et aussi prenant, en fait, tout simplement, c'est que il arrive à créer un suspense, à créer un rythme, à créer une tension avec le lecteur qui rend le livre extrêmement excitant à lire et qui fait que toute la dimension qu'on a pu commencer à parler, politique et tout ça, passe extrêmement facilement et secondaire dans le livre. Et c'est là où c'est pas un livre militant, c'est pas un roman à thèse et tout ça. Il y a une manière de le mettre en scène qui est vraiment brillante, et que on en avait parlé un peu avec Martin, mais qui à mes yeux aussi une sorte de métaphore de l'homme politique, de la séduction politique. C'est aussi un livre sur l'espoir et la séduction, et cette manière dont ce nom d'abord, donc un nom suffit à créer un personnage, parce qu'on y calque tout de suite nos fantasmes, nos espoirs, nos attentes, et puis petit à petit on approche ce moment de l'élection où le type arrive à nous convaincre de voter pour lui en disant qu'il va répondre à nos attentes. Et puis il y a un moment où qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Et en ça, il y a à mon avis aussi un vrai jeu, y compris avec l'utilisation de genres populaires, c'est-à-dire c'est aussi les genres les plus populaires. Donc finalement, un homme politique, son but, c'est aussi de s'adresser à la population. Donc il y a aussi tout ce jeu-là, à mon avis, qui marche dans les deux sens, qui est à la fois la politique et à la fois la littérature, qui se rejoignent dans ce livre-là, quoi.
Et c'est aussi une réflexion sur l'homme providentiel. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de fondateur dans l'histoire française récente? Cette attente, on en parle régulièrement, on attend l'homme providentiel, on est toujours déçu par ce qu'on a, mais après on aura mieux.
Ben, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient et dont on peut avoir l'impression parfois de s'être débarrassé. Voilà, et peut-être que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi ça vient dire que peut-être que cette attente ou cette croyance en l'homme providentiel, elle est en train de s'étioler, et que finalement on se rend compte que la politique, c'est pas simplement voter pour un type qui va être le sauveur du pays, mais c'est peut-être qu'à un moment donné il faut mouiller sa chemise. Mais et à la fois on a l'impression qu'on peut, oui, qu'on va s'en débarrasser, et en même temps on a l'impression que ça existe toujours et que il y a comme si on avait aussi au fond de nous une envie de croire et d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Ça rejoint quand même le thème du super-héros aussi. Hein. Voilà.
Et de la religion d'ailleurs.
Et aussi de la religion.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Billy Bolt Hill, interlude d'un choix de Laurent Polleret pour Mauvais Genre ce soir, qui reçoit Martin Mongin à propos de Francis Rissin aux éditions Tusitala. Alors effectivement, la question qu'on se pose, puisqu'à nous écouter parler de Francis Rissin, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a un vrai personnage? Est-ce qu'il se passe véritablement des choses? Est-ce qu'il y a des péripéties? Puisque ça déjoue quand même les règles traditionnelles et la structure habituelle du roman. Et néanmoins, c'est ce qui est étonnant dans Francis Rissin, Martin Mongin, c'est que effectivement, ça, à chaque fois, on a un angle différent, un personnage différent, et que vous construisez néanmoins une histoire, puisque on a des informations qui arrivent peu à peu sur sa jeunesse, sur les péripéties de sa vie. Alors, est-ce que néanmoins, il y a un récit global dans tout cela?
En tout cas, peut-être que ce que je pourrais répondre, c'est que moi, j'aime bien l'idée que pour saisir ce qui se passe et pour saisir le réel, on va dire, et peut-être que quand même, c'est une des fonctions de la littérature d'essayer de saisir le réel. Mais moi, je trouve ça plus intéressant, le truc d'avoir, les points de vue multiples, quoi. Et que peut-être que la réalité, c'est pas un discours et un récit et une manière de d'écrire ou d'envisager les choses. Et que là, cette dimension un peu, avec des regards différents, avec des genres différents, avec des prismes différents, et ben est-ce que finalement on n'a pas l'impression de que ça rend compte d'une manière plus juste, étonnamment, parce que mais comme s'il fallait une diversité d'angles et de points de vue pour pouvoir saisir quelque chose, quoi. C'est une approche plus phénoménologique, on pourrait dire.
Ce roman est pas un roman au sens traditionnel, je le répète, c'est plutôt une sorte de kaléidoscope qui permet de saisir sous des angles variés un même personnage et d'arriver à avoir une sorte de vision à la fois précise et fuyante, Hubert Prolongeau.
Oui,
Francis Rissin.
Effectivement, et toujours pareil, vous tournez autour de ce mystère sans l'éclaircir. Est-ce que c'était au départ votre idée de se servir de ça? Est-ce qu'en fait vous avez l'impression que notre époque est assez nébuleuse, et quand vous dites saisir le réel, qu'on ne peut pas l'attraper sans passer par la multiplicité des points de vue et par cette idée que au bout du compte on ne capte pas grand-chose?
Oui, sans doute, hein, indéniablement. Après, moi, j'ai l'impression aussi que dans ce livre-là, c'est aussi sur l'insaisissabilité du pouvoir. Et c'est un livre qui parle aussi, voilà, hein, de manière un peu, si on le prend un peu au premier degré, c'est aussi cette campagne d'affichage. Donc, ça parle aussi de qu'est-ce que c'est une campagne électorale, qu'est-ce que c'est ces types qui affichent leur nom comme ça en lettres capitales avec éventuellement leur photo et qui viennent se présenter sur l'estrade pour dire « Votez pour moi, c'est moi qui vais vous tirer du marasme, etc. » Et avec toute la dimension un peu, oui, démonologique qu'il y a derrière tout ça, c'est que un nom, un simple nom, et ben ça peut prendre cher. Et oui, moi j'aime bien jouer avec ce truc-là, ouais.
Nous nous sommes tus. Ton car lui-même s'est arrêté de japper. Nous avions presque oublié que le vent soufflait si fort qu'il s'engouffrait puissamment à travers les anfractuosités des rocs dont il tirait une sorte de sifflement sourd. Francis Rissin. Nous avons murmuré ce nom en silence. Chacun pour soi d'abord,
et puis plus fort ensuite, tous ensemble, comme un mantra, comme un rituel d'évocation. Francis Ricin, Francis Ricin, Francis Ricin. Nous l'avons prononcé lentement, en insistant bien sur chaque syllabe, et puis de plus en plus vite. C'était la première fois que nous ressentions une telle vibration de la matière, la première fois que quelque chose prenait corps, comme ça, devant nous. Alors, une question qu'on se pose aussi, effectivement, le décès de Jacques Chirac a ramené au devant de des diffusions télévisées et autres les meetings où on hurlait son nom, Chirac, Chirac. Là, c'est pareil, Ricin, Ricin. Comment avez-vous trouvé le nom Ricin? Parce que puisque ce nom est censé être celui qui contient tous les noms, quelle est un petit peu la magie, par hasard, une élaboration? Vous avez tiré le nom d'un chapeau? Comment ça s'est passé?
Alors, première chose que je peux dire, c'est que moi, j'aime bien inventer des noms, et ça m'est arrivé par le passé d'écrire des textes ou des essais qui se présentent comme des essais un peu sérieux, mais dont toutes les références, dont toutes les citations, en fait, sont inventées.
Botule.
Voilà, si on veut. Et quand on invente un faux auteur ou un faux universitaire, il faut un nom dont on a l'impression qu'il puisse exister, quoi. Et moi, j'aimais bien ce jeu. Alors, j'ai passé pas mal de temps avec l'annuaire sous les yeux de prendre un prénom, un nom de famille et de voir est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des associations qui, on a l'impression que ça colle pas, et quand on l'entend, et ben, on dit mais non, mais ça peut pas exister, ça. Et d'autres où tout de suite ça fait mouche. Et donc là, c'était peut-être plus simple pour Francis Ricin, parce que j'avais un certain nombre de contraintes que je m'étais fixées, parce qu'il fallait que dans ce patronyme, il y ait quand même le signifiant France. Mmh. Et donc, comme il fallait que ce soit un homme, en termes de prénom, j'avais pas l'embarras du choix.
François, Francis.
François, Francis. Il y a eu des Francisques aussi, mais voilà. Là, ça en disait trop vite, peut-être. Et puis, il fallait que les initiales, ça fasse FR aussi, bon, voilà. Et puis, il fallait que ça glisse un peu. Donc, il y a cette allitération, ces assonances, là, Francis Ricin. Et puis, le ricin, c'est cette plante dont...
L'huile de ricin?
Il y a l'huile de ricin, alors qui est à la fois qui peut servir de remède, mais qui a aussi été un poison.
Utilisé par les fascistes. Utilisé pour torturer les...
Par les fascistes, par les mussoliniens, pour une épreuve, j'ai subi leurs opposants politiques. Alors, d'autant plus que Francis Ricin va beaucoup plus loin, puisqu'effectivement, ce patronyme imaginaire devient la hantise, véritablement. D'abord, par la campagne d'affiche, la France entière se ricinise, il y a du ricin partout. On le voit monter vers le pouvoir, on le voit un moment dans la foule devant Beaubourg, on le voit animer un gigantesque meeting dans une sorte d'amphithéâtre colossal construit spécialement pour lui, donc il est là. Et en même temps, bon, ça c'est la réalité patente et l'omnipuissance du pouvoir, mais à côté de ça, il y a tous ceux qui s'appellent Ricin. Alors, parce qu'il y a des enquêteurs dans le roman, dans les 11 chapitres, c'est bourré d'enquêteurs, donc les gens qui cherchent des Ricins partout, alors qu'ils vont dans des villages trouver les tombes, il y a ceux qui s'appellent Ricin et qui ne sont pas concernés par la campagne d'affichage, mais qui brusquement se prennent au jeu, se disent, mais après tout, s'il est question d'un ricin qui va sauver le pays, mais c'est peut-être moi. Donc, il y a deux ricins, il y a une association. Vous inspectez véritablement toutes les potentialités qu'il y a dans la magie d'un patronyme.
Ouais, alors je fais des recherches, j'ai quand même pris des précautions pour savoir s'il y avait des Francis Ricin existants en France. Alors, j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé quelques-uns qui existent ou qui ont l'air d'exister, parce que quand on fait une recherche en ligne, on n'est jamais sûr que voilà. Il y avait l'air d'avoir des Francis Ricin aux États-Unis, ça donne lieu à une scène d'ailleurs dans le livre, mais en France non. Mais avec Michael, on attend quand même impatiemment le moment où Francis Ricin va téléphoner aux éditions Tusitala en disant « ça commence à bien faire ».
Il se sentait écrasé par quelque chose d'immense qui les dépassait, dont il ne parvenait pas à saisir la nature. Ils se demandèrent pour finir s'ils n'étaient pas les jouets d'une force supérieure, une force qui aurait porté une infinité de noms. L'un de ces noms était le gardien, un autre de ces noms était sergent, Et peut-être que Francis Ricin était le nom qui incluait tous les autres, le nom de cette créature qui les poussait lentement dans le vide, le nom de cette pluie noire et poisseuse qui salopait le monde. Peut-être que Francis Ricin était l'autre nom de Dieu. Élise Lépine.
Bah, c'est un livre qui est drôle aussi, qui est amusant à plusieurs moments. Et quand vous avez présenté le livre, vous avez dit le mot angoissant, je pense au moins 4 ou 5 fois, angoissant. Quelle est pour vous la fonction du rire dans votre littérature ?
Bah, je pense que le rire a une dimension cathartique, justement. Hein, enfin oui, moi j'ai l'impression que l'humour, c'est une façon de se sortir les angoisses du corps et d'en faire quelque chose de
mais là de joyeux. L'humour dans Francis Ricin, il est un peu, enfin je veux dire, on rit de peur presque, on rit d'inquiétude.
Il est entre l'absurdité de cette figure du leader charismatique qui est au fond très angoissante, et puis il est aussi effectivement dans le sentiment on est dérangé, il est là-dedans et dans l'absurdité et dans la noirceur de ce qui se passe aussi du
Martin
tableau.
Mongin.
Oui, après, ouais, je n'anticipe pas sur les effets que ça va produire forcément sur les lecteurs, hein, mais moi j'ai l'impression que quand j'écris, en tout cas, je m'amuse beaucoup et que il y a vraiment une dimension ludique pour moi dans le processus de l'écriture voire même un peu, oui, du côté du délire et de liberté aussi, hein, et c'est pour ça que quelquefois les chapitres terminent un peu dans des grands délires ou des grands n'importe quoi. Bon, mais c'est aussi pour moi une façon de me faire plaisir.
C'est vrai qu'il y a une dimension ludique, puisque du fait qu'on varie à chaque fois, il y a ces 11 variations sur la figure et le nom de Francis Ricin, que ce soit des choses. Alors, par moment, on le voit de très loin. Il est vu comme un point dans la foule. Il est vu comme une sorte de divinité au loin, entouré de ses fidèles. Des fois, c'est le récit de son enfance. Alors, on apprend qu'il a eu des apparitions mariales, qu'il avait c'était un thaumaturge, un vrai comme un saint breton. Après, ça devient un Hervy, un homme violent, Hubert Prolongeau. Il y a aussi l'humour vient peut-être là, c'est qu'à chaque fois, on recommence sur autre chose.
Oui, il vient de ça et d'une absurdité de situation, celle par exemple de ce flic qui le traque par internet, de meeting en meeting, qui s'aperçoit à chaque fois qu'il arrive alors que le meeting vient de passer. Mais c'est pas un livre poilant, si vous voulez, on ne rit pas, mais il y a un refus de se prendre au sérieux et qui me fait penser un peu littérairement ça, plus la précision avec laquelle vous recréez de faux documents, qui me fait penser par moments à Borges. Est-ce que ça a été pour vous une référence sans vouloir vous écraser dessous?
Mais si, oui, sans doute. Hein. Moi, les fictions de Borges, ça a été un texte important dans mon parcours. Et pareil, cette dimension ludique et aussi de jouer avec les codes de l'écriture et de la littérature.
Oui, puisque
d'inventer des livres.
Les chapitres sont borgesiens au sens où ce sont de vrais faux documents. Ce sont des chapitres, ce sont des documents tirés de dossiers, ce sont des chapitres de mémoire, ce sont des entretiens, des journaux. Donc à chaque fois, on est dans une falsification, on peut le dire, d'un document.
Ouais, il y a aussi cette envie de jouer avec le lecteur et de le prendre un peu au piège et de le laisser aussi trouver sa propre voie et sa propre interprétation. Voilà, c'est pas refermé, c'est pas un Agatha Christie où à la fin on a le nom du coupable, on sait quel est le motif. Voilà, là, les choses se recoupent pas ou recollent pas complètement. Il reste des interstices et ça laisse de l'espace pour le lecteur, je sais pas, hein, pour qu'il.
Il y a même un vrai faux avertissement au début pour commencer, parce qu'on nous a demandé si c'était l'éditeur ou l'auteur qui l'avait écrit, donc il y a tout de suite une ambiguïté, en effet très Borges, ou qui pensait aussi à Bolaño, la littérature nazie en Amérique, qui est très latino en fait aussi.
Martin Mongin, Francis Ricin aux éditions Tusitala, sans doute le volume, je veux pas dire le roman, je veux pas dire le texte, je veux dire, mais sans doute le livre le plus inquiétant et le plus étonnant de cette rentrée littéraire. Thank you.
Deuxième temps de Mauvais Genre ce soir sur France Culture, les chroniques qui on commence par Tanizaki avec vous Hubert Prodonjon.
C'est ça, donc avec un auteur qui lui ne débute pas dans cette rentrée littéraire, Junichiro Tanizaki, grand maître des lettres japonaises, et dont Philippe Piquier réédite un court roman à tendance plutôt policière qui s'appelle Dans l'œil du démon, qu'il a écrit dans les années 30. Alors Tanizaki a beaucoup écrit, il a abordé aussi beaucoup de genres, c'était un écrivain populaire et pas seulement un géant des lettres japonaises. Et là c'est un court livre qui, de manière étonnante, démarre comme un simple polar et en fait très très vite nous réintroduit dans les obsessions qu'il développera plus tard, dans l'étrange obsession en particulier qui a donné au cinéma le film La Clé. On commence par une proposition très curieuse, un écrivain à qui un de ses amis demande, ou plutôt propose, de venir assister à un meurtre. Il y va, effectivement il assiste à un meurtre et son ami tombe totalement amoureux de la meurtrière et va l'approcher jusqu'à risquer sa vie. Je vais pas au-delà parce qu'il y a une espèce de mécanique assez diabolique. Il y a à la fois un côté Agatha Christie au début avec le décryptage du message qui va leur permettre d'aller assister au crime, et puis très rapidement on tombe dans une espèce de perversion qui débouche sur un jeu des apparences où rien de ce qu'on voit n'est en fait la réalité et qui donne lieu à une fin un peu comme la vôtre, étonnante parce qu'elle est à la fois déceptive et satisfaisante. C'est-à-dire, c'est pas ce à quoi on s'attend, ça fait un pas de côté, ça vide un peu le livre de sa substance dramatique et en même temps ça la remplace par autre chose. Donc c'est un livre assez curieux qui est tout petit, 134 pages, qui se dévore avec délices et laisse en même temps un espèce d'arrière-goût un peu troublant. Donc dans l'œil du démon,
dans Junichiro Tanizaki. Du démon, Martin Mongin, vous êtes lecteur de Tanizaki, et d'Ogawa Rampo et autres sorciers en littérature japonaise, non pas du tout.
Non.
Et Michael Demet, parlez-nous de vos favoris pour le.
Et d'Ogawa Rampo notamment, oui. Un auteur que j'ai. Faut pas que je me trompe sur les types, La Bête Aveugle, c'est
absolument.
Ça. Et puis toutes les adaptations manga par Maruo et tout ça, c'est des bandes dessinées et des textes qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. C'est vraiment un univers qui a une manière de changer de ton aussi que j'aime bien, ce mélange de grotesque, d'horreur, d'humour, de sexe, et qui est loin de ce qui est souvent beaucoup plus, comment on pourrait dire, séparé dans la littérature occidentale. Et là, on tourne la page, on sait pas ce qu'il va y avoir derrière, quoi. Et ça, j'aime beaucoup.
Et Masumura avait fait un très beau film de La Bête Aveugle.
La Bête Aveugle.
Un cinéaste, hélas, méconnu.
Deuxième proposition ce soir, Hubert Prolongeau.
Alors, c'est un roman qui est aussi exotique, qui se passe en Afrique, qui lui est écrit par un Français qui s'appelle Richard Boisdin, qui est aujourd'hui ambassadeur de France au Zimbabwe, et qui imagine en 2023, en Afrique, la comparution devant la Cour internationale de La Haye de trois hommes accusés de crimes contre l'humanité, et dont on découvrira qu'ils sont liés à un projet écologique extrêmement radical. Donc l'auteur connaît très bien l'Afrique, il sait construire un récit, littérairement c'est pas une révélation, on ne découvre pas un écrivain majeur, mais on découvre quelqu'un de fort informé, très habile, et qui sait mettre en scène dans un récit à la au cœur des ténèbres, une vision de l'Afrique qui est juste et assez troublante. Donc c'est notre primo-romancier qui mérite qu'on le découvre, c'est aux Presses de la Cité, D'autres viendront, de Richard Boisdin.
Dernière information qui concerne quelqu'un que j'ai eu le plaisir de recevoir à Mauvais Genre il y a quelques années, Kent Anderson.
Voilà, bonjour. Kent Anderson qui vient d'avoir le Grand Prix de littérature policière, donc pour son dernier roman, qui est un livre qui se passe à Auckland et qui est une espèce de plongée dans la vie quotidienne d'un commissariat d'Auckland. C'était l'auteur de Sympathy for the Devil. C'est le troisième titre de cette trilogie et c'est un livre qui méritait très très largement cette récompense, donc Grand Prix de littérature policière.
Lecteur de Kent Anderson, j'imagine,
qui est aussi
éditeur de romans noirs.
Je me rappelle de ses premiers...
Kent Demetz.
C'était pas Chien de la Nuit, des premiers romans, beaucoup plus pour le coup polar et détective, qui étaient déjà très très intéressants, et c'était il est à l'origine du film Né un 4 juillet, c'est ça, c'était aussi un texte de Kent Anderson. Oui, c'est un des auteurs donc, qui a été tardivement découvert en France, finalement, redécouvert.
L'ancien béret vert, qui en a gardé l'âme et la violence. Donc on rappelle le prix qu'il a eu, Hubert.
Le Grand Prix de littérature policière, et je rappelle le titre surtout, qui est Un soleil sans espoir.
Voilà, moi je communique aussi quelques récompenses. Peter Strickland pour son film In Fabric a eu l'Octopus d'or du Festival du film fantastique de Strasbourg. Et il y a eu également le Méliès d'argent, donc à ne pas rater, In Fabric de Peter Strickland. Et puis pour les courts-métrages, L'Octopus d'or est allé à Fauve de Jérémy Comte, un romancier canadien. sur un air d'accordéon. Élise Lépine, Marion Brunet.
Marion Brunet, voilà, je suis allée piocher du côté de la jeunesse, puisqu'on n'aime pas les ghettos, les cases à mauvais genre, même si on aime bien les marges. Et donc, je suis allée voir ce que font nos auteurs de polar pour les jeunes. Et je peux vous garantir qu'on peut les lire, même si on n'est pas forcément tout jeune. Et là, c'est Marion Brunet, effectivement, qui avait notamment écrit L'été circulaire, qui était très bien pour les adultes, qui publie Sans foi ni loi chez Pocket Jeunesse. Alors voilà, regardez cette belle couverture avec une silhouette de femme sur fond rouge qui a une carabine et un chapeau de cow-boy. On est dans un western et on suit Abigail Stenson. Ab Stenson, ça pourrait être Abraham aussi, puisqu'elle s'habille en homme et qu'elle est hors la loi. Et au cours de l'un de ses méfaits, elle enlève Garrett, qui est un gosse battu par son père révérend, pasteur extrêmement violent. Elle l'embarque avec elle, puisque finalement c'est un peu un témoin gênant, et puis il pouvait finalement c'était ce qui pouvait lui arriver de mieux à ce jeune Garrett, d'être embarqué par Ab Stenson. Ils vont partir ensemble sur les routes du Far West, ils vont affronter ensemble les ennemis qui lui collent aux éperons qu'elle a en or massif. Et Marion Brunet, elle édulcore rien du tout de ce monde dur du Far West, ni la violence, ni la cruauté, ni le sexisme, ni le racisme. Elle nous embarque comme ça dans un univers très sombre. C'est extrêmement bien écrit. Elle construit ce personnage inoubliable de femme, et là, toute littérature confondue, je trouve ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un comme ça, de cette épaisseur et de cette étoffe-là, que cette Ab Stenson. Et puis, elle a ce talent qu'elle exprime dans toutes ses littératures, de montrer des personnages qui s'extraient de la spirale pour construire, revendiquer et inventer leur propre liberté. Donc, c'est une plume qui me parle beaucoup, que ce soit pour la littérature adulte ou pour la littérature jeunesse que j'ai découverte ici.
Deuxième recommandation,
toujours pour les jeunes et pour les moins jeunes. Là, j'ai dévoré complètement, c'est Jérôme Leroy. On sait qu'il aime la dystopie, la fin du monde. Et il s'y colle pour les ados. On sait aussi qu'il écrit très bien pour les ados. C'est chez Syros et c'est Lou après tout. C'est 3 tomes. Moi, j'ai lu les 2 premiers. Le dernier va sortir le 3 octobre. Donc, c'est du post-apo. On suit Lou et Guillaume. Dans le premier tome, en tout cas. Lou, c'est une grande ado, une jeune femme. Guillaume, c'est un trentenaire. On est une bonne dizaine d'années après l'effondrement, le grand effondrement, et ce grand effondrement, il a apporté sur Terre des zombies, plusieurs espèces, des rapides, des plus lents, des catastrophes climatiques, et puis des groupes terroristes, une sauvagerie évidemment qui s'installe, et des petites communautés qui essayent de survivre paisiblement. Et donc on suit Lou dans ce paysage post-apo, dans lequel elle se débrouille quand même très bien avec son couteau et sa force de caractère, et c'est un grand roman.
Il s'agit de post-apocalyptique.
De post-apocalyptique.
Note en bas de page.
Oui, pourquoi je ne l'ai pas assez précisé. Des zombies, donc a priori, quoique, parce que justement c'est là que je voulais en arriver. Jérôme Leroy, évidemment, il y a ce qu'on aime, c'est-à-dire cette poésie à fleur de peau qui est en permanence dans ce livre, qui par ailleurs ne ménage pas notre âme et nos sensations fortes. Mais surtout, tout ce dont il parle, c'est en germe dans la société actuelle, c'est-à-dire que les zombies ne sont pas devenus des zombies qui, comme chez Romero, sortent de sous terre avec les mains en avant dans les cimetières. C'est plutôt des gens qui ont abusé des psychotropes ou qui ont abusé de la réalité virtuelle. Et puis, évidemment, les catastrophes climatiques, je ne vous fais pas un dessin pour savoir d'où elles viennent. Donc, c'est une grande trilogie de Jérôme Leroy.
Et c'est aux éditions
Syros.
Merci, Élise Lépine. On termine cette émission, comme se doit, avec Christophe Beer.
De Dominique Formin, on se souvient des truands de Voyoucratie piégés dans une fourgonnette à Franconville ou du gardien de parking d'Albuquerque coursé par des porte-flingues. Coup de vieux chez Robert Laffont confirme son goût pour les marginaux et le désenchantement qu'il pousse à l'extrême avec 2 anti-héros sexagénaires liés par un secret et aimant se haïr. Clovis Martinez, 67 ans, ancien de l'OAS, est un kiosquier pied noir, retraité à Béziers, sur qui le couperet social est tombé. André Milk, 2 ans de moins, ex-cogneur de la gauche prolétarienne, s'est recyclé dans le journalisme bon teint. Milk veut comprendre la fin crapuleuse d'Emma, la copine d'un frère d'armes chez qui il passe ses vacances. Elle est morte, nue sur une dune du Cap d'Agde, une plage de branleurs où des libertines jouissent de sexes anonymes. Il rappelle Clovis pour mener l'enquête, mais le monde se débine autour d'eux. Au cœur du Biterrois Pinardier, il découvre les bribes d'une complexe magouille immobilière, blanchissant l'argent vérolé d'un trafiquant de drogue marocain. Le nostalgique de l'Algérie française et l'ancien maoïste ne sont plus de taille. Ils sentent le vieux, détective aux jambes vacillantes et à la respiration courte. Forma leur oppose des tempéraments féminins jeunes d'une énergie tenace. Alex, libertine des plages, est aussi hors norme par sa sexualité dévorante qu'Anaïs Lille par son ambition professionnelle, laquelle compense sa laideur physique par une intelligence cynique. Elle partage le goût du risque, l'une pour le plaisir, l'autre pour la réussite sociale. L'auteur a le sens romanesque des décors, faisant sourdre la peur d'une minuscule échoppe de loukoum dans la rue sans éclairage d'un coin de Casablanca ou sur les terres rouges du Salagou. Ces personnages secondaires sont des rouages pathétiques de la pourriture globale. Le fils camé, l'agent immobilier peu scrupuleux, l'homme de main qui sait séduire les femmes et menacer les hommes. Clovis et André ne règlent rien. Ils sont déjà morts, dépassés par les enjeux. Du même format, Portrait cannibale chez Marest Éditeur rêve sur deux photos. Sur un hors-bord, Carlo Ponti tient le pied de Sophia Loren, riant aux éclats. Dans un canapé, le vieux Fritz Lang est absorbé dans une lecture. À partir de là, remontent les relents méphitiques des latrines de Cinecittà que la jeune Sophia aurait fréquentées et le vacarme d'un cabaret berlinois dans lequel Fritz observe la clientèle mise en rute par la sauterelle décharnée Anita Berber. Forma est un conteur trivial que la décrépitude des mondes fascine, Cinecittà, Weimar et le Languedoc échangiste.
Merci Christophe Beer, merci Martin Mangin d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. On recommande bien évidemment Francis Ricin, le livre le plus étonnant de cette rentrée aux éditions Tusitala de Michael Demes, dont le prochain volume à publier sera
en janvier, le roman Paria de Richard Kraviec, qui avait déjà fait les romans Dandy et Vulnérable chez nous.
Très bien, on recommande également l'avant-dernier, avant Francis Ricin, qui était un roman de Lougrane aux éditions Tusitala. Donc Francis Ricin, c'est dit, Tanizaki dans l'œil du démon, c'est chez Piquier, Richard Boisdin, d'autres viendront aux presses de la cité. Sans foi ni loi de Marion Brunet chez Pocket Jeunesse, Loup après tout de Jérôme Leroy, c'est aux éditions Cirrose. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Michel Beugnot, Claire Poinsignon, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine pour un Mauvais Genre à Bruxelles, en compagnie d'Émile Bravo pour la sortie aux éditions Dupuis du troisième volet des aventures de Spirou sous l'occupation. Et d'ici là, bonne nuit à tous.